Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Métropolez-vous, l'émission consacrée à l'actualité de Toulouse Métropole. La fin de l'année approche et avec elle le moment où l'on peut faire le bilan des projets, des actions et des politiques en cours menées et financées par la métropole toulousaine. Parmi eux, il y a notamment ceux qui relèvent de ce qu'on appelle la politique de la ville. Ce n'est certainement pas le champ d'action métropolitain le mieux connu des citoyens, même si nombre d'entre eux habitent des quartiers concernés par la politique de la ville et les différents dispositifs déployés dans ce cadre. Un cadre bien précis, structuré par le contrat de ville et la loi ville et cohésion urbaine du 21 février 2014. Cette émission a pour but de rappeler ce que recouvre ce concept et de vous faire connaître les actions menées par la collectivité métropolitaine dans ce domaine. Beaucoup ont été lancés dès 2015 et comme je le disais il y a quelques instants, la fin de l'année 2022 est l'occasion de faire un bilan pour chacune d'entre elles, de leur réussite mais aussi de ce qui reste à faire ou à mettre en place. Vous allez tout savoir sur la politique de la ville de Toulouse Métropole. À la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole, l'élu en charge du dossier des actions de la politique de la ville, c'est Gaëtan Cognard. Il me fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro. Bienvenue à vous aussi, monsieur, et merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour et merci Eric de m'avoir invité.
Pour commencer notre échange, comme je l'ai évoqué en introduction, je propose que l'on reprécise la notion et l'expression politique de la ville. Que recouvre-t-elle précisément et dans quel domaine agit-elle ? C'est peut-être ça surtout qui va intéresser nos auditeurs.
Alors la politique de la ville, effectivement, c'est vaste et transversale. L'objectif premier de la politique de la ville, c'est de réduire les inégalités entre les quartiers dits en difficulté, je vais définir ce que c'est qu'un quartier en difficulté, et les autres quartiers de la métropole. Mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est un quartier en difficulté ? Alors c'est défini par cette fameuse loi LAMY de 2014. C'est les territoires où les revenus moyens sont 60% inférieur au revenu médian de la population métropolitaine. Donc ça veut dire que sur Toulouse, on a 12 quartiers prioritaires. Bagatelle, La Farouette, Papus, Tabar, Bordelongue, Empalo, Rennery, Mireille Université, Bellefontaine, Les Pradettes, Sépierre-Beauregard, La Gloire, Soupetard, Bréguet-l'Écrivain, Maraîcher, Les Isards, Bourbaki, Nègreneis. Et on a 4 quartiers qui sont sur d'autres communes de Toulouse Métropole, les Baradels à Blagnac, le Val d'Aran, Fenassier à Colomiers et Viviers-Masson à Cugnot. Voilà, donc une fois qu'on a défini ce périmètre, l'objectif, comme je vous l'ai expliqué, c'est comment réduire les inégalités entre les quartiers les plus en difficulté et les autres, mais pas seulement parce que ce serait pas rendre hommage aussi à ce qui est fait dans l'ensemble des actions menées par la politique de la ville. Il s'agit aussi de valoriser les pépites, les talents de nos quartiers, c'est important de le dire, et notamment les parcours individuels. Et troisièmement aussi, c'est comment expérimenter, c'est dans nos quartiers. L'ambition, c'est aussi le lieu pour expérimenter la transition écologique, notamment des quartiers prioritaires.
Donc 12 quartiers prioritaires à Toulouse concernés par la politique de la ville et 4 autres dans la métropole, à Blagnac, à Colomiers et à Cugnot. Ça concerne combien d'habitants ça ? C'est 55 000, 60 000 ?
63 000, à peu près 63 000 habitants donc, qui sont répartis et qui sont représentés dans des conseils citoyens. Notamment il y a une douzaine de conseils citoyens et qui ont été d'ailleurs renouvelés l'année dernière en grande partie. Donc l'objectif, c'est qu'on a accompagné ces nouveaux conseillers citoyens pour qu'ils puissent redonner du souffle et nous accompagner dans la mise en place de nos politiques publiques.
Eh bien, merci pour toutes ces premières informations très précises et indispensables pour bien comprendre de quoi nous parlons. Nous allons présenter plus précisément les actions et les dispositifs métropolitains estampillés politique de la ville dans quelques minutes. Pour l'instant, place à l'actualité avec le flash d'informations hebdomadaire conçu par Corinne Saint-Félix, mais lu cette semaine par Timothée Rouvière. Métropolez-vous, l'actu. La première information de ce flash est une question. Et si le RER changeait votre vie? Elle est posée dans le cadre d'une enquête lancée dans la grande agglomération toulousaine.
L'association Rallumons l'Étoile a lancé une enquête à destination des habitants de la grande agglomération de Toulouse concernant leur mode de déplacement et l'impact que pourrait avoir le développement du RER toulousain. Elle espère que les citoyens s'emparent de cette question tout en alimentant les réflexions des acteurs décisionnaires. Un projet qui pourrait bien trouver un nouveau souffle suite aux déclarations du président de la République. Dans une vidéo YouTube, Emmanuel Macron a émis le souhait de voir des RER se développer dans les 10 plus grandes métropoles de France. Toulouse en fait bien évidemment partie. Alors l'idée de ce RER toulousain présenté par l'association Rallumons l'Étoile, c'est de développer les 6 branches de l'étoile ferroviaire déjà existantes à Toulouse, cadencées toutes les 30 minutes entre 5h et minuit, ou encore de créer un nœud de correspondance RER à partir de la gare Matabiau.
Et maintenant, une promotion pour une élue de la métropole toulousaine. Dominique Faure était secrétaire d'État à la ruralité. Elle devient ministre déléguée chargée des collectivités territoriales.
Caroline Cayeux a démissionné du gouvernement le 28 novembre dernier. En cause, une déclaration de patrimoine jugée sous-évaluée. L'ancienne maire de Saint-Aurens de Gameville en Haute-Garonne, Dominique Faure la remplace. En tant que ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, elle était jusqu'alors en charge de la ruralité au sein du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Auparavant, Dominique Faure était la première vice-présidente de Toulouse Métropole, chargée de l'économie, l'innovation et l'emploi, et surtout députée de la 10e circonscription de Haute-Garonne.
Et puis, pour finir, une information environnementale, elle concerne la première opération de mécénat pour la végétalisation du quartier Montaudran.
Une première convention de mécénat autour de la végétalisation a donc été signée. Elle porte sur la création du jardin du Brésil et du Chili dans les jardins de la ligne à Montaudran et sur la plantation d'arbres sur le site de la piste des Géants. Un premier arbre a déjà été planté pour le démarrage du chantier. Cette réalisation est la deuxième phase des jardins de la ligne qui évoque l'itinéraire des pieds de l'aéropostale et les différents paysages survolés lors de leur odyssée. Elle permettra la plantation d'environ 280 arbres pour 2024. Et pour ce projet, Toulouse Métropole investira à hauteur de 800 000 euros et l'apport en mécénat se monte à 245 000 euros. D'autres projets de la collectivité liés à l'environnement sont d'ores et déjà ouverts à des actions de mécénat. La mairie de Toulouse a lancé depuis 2016 une dynamique de mécénat au-delà du domaine culturel, en direction du patrimoine en lien avec les aménagements urbains. Les prochains axes du mécénat concerneront des projets d'inclusion sociale et d'éducation.
Le flash d'information métropolitaine conçu donc par Corinne Saint-Félix, mais lu cette semaine par Timothée Rouvière, que je remercie chaleureusement au passage. Gaëtan Cognard, après avoir écouté ce flash, une réaction ou un commentaire à ce que vous venez d'entendre? Il y a la nomination de Dominique Faure à ce poste de ministre délégué aux collectivités territoriales, votre ex-collègue au Conseil communautaire de Toulouse Métropole, première vice-présidente. C'est une bonne nouvelle pour la métropole.
C'est une très bonne nouvelle pour la métropole et effectivement, je suis ravi pour trois raisons. Parce que ex-collègue, certes, mais tous les liens d'amitié aussi que je peux avoir avec la maire de Saint-Aurens de Gameville. Et puis aussi, la deuxième raison importante, c'est que Dominique est une élue de terrain. Et elle a arpenté depuis déjà plusieurs semaines en tant que secrétaire d'État les territoires ruraux. Mais elle a tout son passif aussi en tant que maire. Et donc, elle connaît le terrain, elle connaît les collectivités locales. Et la troisième raison, c'est que finalement, le travail paye. Et c'est une valeur importante aussi quand on se retrouve à ces niveaux de responsabilité et que le travail est fait, eh bien, jusqu'où va-t-elle aller ?
En tout cas, je vois que vous êtes très content de cette nomination et que vous saluez ce nouveau poste de ministre délégué aux collectivités territoriales attribué à Dominique Faure. Merci pour cette réaction. Retour maintenant à notre sujet du jour, la politique de la ville de Toulouse Métropole et le bilan des actions engagées.
Métropole et vous.
Métropole et vous. Le focus de la semaine.
Métropolez-vous.
Seconde partie de Métropolez-vous avec l'invité de ce numéro, Gaëtan Cognard, conseiller municipal délégué de Toulouse et conseiller communautaire de Toulouse Métropole en charge des actions de la politique de la ville. Avant de faire un bilan, il faut rappeler d'abord ce qu'était le plan d'action prévu dans le contrat de ville qui a été prolongé de 2 ans en 2020 et qui courait donc de 2015 à 2022. Il y avait 3 piliers, 3 axes dans ce document. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler?
Oui, 3 axes qui nous ont permis de cadrer le contrat de ville depuis 2015. C'était le premier, améliorer améliorer le cadre de vie, le deuxième, favoriser la création de richesses, et le troisième, renforcer la cohésion sociale. Donc nous avons, depuis 2015, agi sur ces trois piliers, mais demain, on arrive à un moment charnière aussi, car le nouveau contrat de ville va être en préparation pour 2024 et pour la suite. Donc 2023 sera cette année charnière, et on a fait un bilan. Et forcément, comme chaque année, nous avons un bilan qui a été présenté au conseil, dans les différents conseils municipaux, qui a été présenté le 7 décembre aussi en conseil métropolitain de Toulouse Métropole, pour donner à voir ce qu'il en est. Alors, c'est 275 actions par an. Donc, la politique de la ville, c'est, je l'ai dit, c'est une politique transversale qui se mène au travers de ces trois piliers. Faire un catalogue et expliciter chaque action, ça va être compliqué.
Je ne vais pas vous en demander tant.
Mais s'il fallait donner, finalement, on parlera des dispositifs, j'espère, après, mais s'il fallait donner un élément important pour donner à voir, il y a eu, il y a quelques jours, les 1 an d'un lieu spécifique sur la Rainerie. C'est les 1 an du collectif à Bâle, qui est un lieu symbolique pour le renouvellement urbain et le contrat de ville. Car le renouvellement urbain, c'est un des piliers de la politique de la ville. Il s'agit d'agir sur les bâtiments, lorsqu'on reconstruit des bâtiments, lorsque l'on déconstruit ou démolit des bâtiments. Et il y a aussi le volet du contrat de ville qui est là pour accompagner les structures, les associations qui souhaitent s'investir soit dans l'amélioration du cadre de vie ou dans la cohésion sociale. Eh bien, on a eu une nouvelle maison de la citoyenneté qui a été construite il y a moins d'un an. En attendant, et l'ancienne mairie de quartier, plutôt que de la clôturer, de ne rien en faire pendant 2 ans avant la démolition et pour qu'il y ait la future cité de la danse, avec Jean-Luc Moudin, on a décidé de mettre à disposition ce lieu pour en faire de l'urbanisme transitoire, de l'urbanisme temporaire, donc qui a été donné à Intercalaire, mise à disposition, et avec un objectif que l'on a fixé, c'est comment favoriser la cohésion sociale en faisant venir un certain nombre d'associations, structures, notamment pour favoriser l'entrepreneuriat féminin, mais aussi des jeunes pousses, des jeunes pépites de nos quartiers, des infirmiers, un producteur de vidéos, des architectes qui n'avaient pas l'occasion d'avoir des locaux pour pouvoir s'installer parce que c'était trop cher. Là, à prix très réduit, ils peuvent s'installer là. Et donc, ça crée toute une cohésion, pour tout vous dire. C'est 60 sur 2600 m², c'est 60 structures qui sont là, différentes. 37, pardon, pas 60. 60 événement l'année dernière, il y a une véritable émulation qui se met en place et qui s'est mise en place de manière temporaire avant d'avoir demain la cité de la danse. Voilà la symbolique de la politique de la ville, agir sur l'urbain, agir sur l'humain. Et ça, c'est primordial.
Ça, c'est une action emblématique qui, en plus, concerne les trois piliers que vous avez cités, hein, l'amélioration du cadre de vie, la cohésion sociale, et puis, j'imagine, un projet comme celui-ci, derrière, il y a aussi de l'emploi.
Tout à fait. Ben, ça a permis à des entrepreneurs de pouvoir non seulement se développer. On était il y a quelques jours déjà avec ce collectif. Et donc, la création d'emplois, on passe de 2 salariés pour le collectif d'architectes à un petit peu plus, 3-4. C'est par les petits pas. La politique de la ville, c'est une politique du temps long. Il s'agit aussi de donner à voir et comment mieux l'évaluer. C'est un des sujets du futur contrat de ville. C'est un des sujets de l'évaluation qui est en cours de finalisation, là, de l'évaluation des 5 ans qui ont été...
Quels critères retenir pour montrer qu'il y a eu effectivement une amélioration dans tous les axes retenus, les trois piliers, l'amélioration du cadre de vie, comment on fait pour mesurer qu'effectivement on a réussi à améliorer le cadre de vie. L'emploi, c'est peut-être un peu plus simple de montrer qu'il y a eu des résultats. Puis la cohésion sociale, ça, c'est pas très simple non plus à évaluer.
Tout à fait, c'est la difficulté d'évaluer la politique de la ville, vous l'avez compris, transversale. Prenons l'emploi, votre exemple. Demain, on prend le quartier X, qui va avoir un taux d'emploi ou un taux de chômage pour les jeunes de 23%. Si on le prend 5 ans plus tard, on va se dire qu'il est toujours à 23%. Fichtre, ça n'a pas amélioré la situation. Si on réagit et si on ne prend en compte que les stocks. Mais il y a eu un certain nombre de parcours individuels, de nombreux parcours individuels qui ont été positifs. C'est pour ça que demain, dans les évaluations du contrat de ville, des actions que l'on mène, il s'agira de s'intéresser un petit peu plus en profondeur sur ces parcours de vie, parce qu'on s'intéresse aux habitants. Et donc les parcours de vie, les parcours positifs. Alors, on s'appuiera toujours, bien sûr, sur des données, entre guillemets, statistiques en stock, mais demain, de pouvoir s'intéresser à des cohortes, entre guillemets, d'habitants, pour voir au bout de 2-3 ans, l'évolution de la chose nous permettra d'avoir une évaluation plus qualitative et aussi qui donnera à voir et battra en brèche un certain nombre parfois d'idées reçues sur la politique de la ville.
À l'intérieur de la politique de la ville, il y a plusieurs dispositifs. Comme vous l'avez évoqué, je sais que vous souhaitez en parler. Certains sont labellisés, je pense notamment au label Cités éducatives, à Cités de l'emploi. Mais il y en a d'autres et ils concernent plusieurs quartiers de Toulouse Métropole. Alors, quels sont les dispositifs qui sont en place actuellement et dans quel quartier?
Oui, alors en plus de la politique de la ville qui est dans le cadre du contrat de ville où il y a 2,4 millions d'euros de budget pour accompagner les associations depuis 2 ans et dans le cadre du CIV, le Conseil interministériel de la ville qui s'est mis en place suite à la période Covid, eh bien le gouvernement a donné la possibilité pour les territoires et donc Toulouse d'essayer d'obtenir d'autres financements pour certains dispositifs. Alors, ça a été fait, même avant la période Covid, pour la cité éducative du Grand Mirail. Pour rappel, c'est 650 millions d'euros par an. Ça va être prolongé vraisemblablement jusqu'en 2027, voire plus. Cela fonctionne, la cité éducative. Déjà, c'est la plus grande de France. Il s'agit de favoriser la réussite scolaire, lutter contre les décrochages et faciliter aussi toutes les transitions entre le primaire et le secondaire de tous les jeunes de 0 à 25 ans. Et bien sûr, encourager les mixités et les mobilités. Pour vous donner un exemple très précis de ce qui a pu se faire avec la cité éducative, il y a un dispositif ACT qui est intéressant. Ce dispositif ACT, il s'agit donc dans la partie du Grand Mirail et un certain nombre de collèges, de collégiens qui, à un moment donné, sont exclus temporairement pour des raisons diverses et variées, souvent de comportement en classe. Eh bien, plutôt que de les laisser soit à la maison ou parce que les parents travaillent, ils ne vont pas pouvoir s'en occuper, qu'ils soient pris en charge et donc travailler de manière temporaire sur les 2-3 jours de l'exclusion avec eux pour comprendre, voir ce qui s'est passé, essayer de faire du lien aussi avec les parents, de la parentalité, pour revoir certains sujets et analyser avec eux finalement leurs besoins, leurs attentes et voir ce qui n'a pas marché. Voilà du très concret. Du très concret de la cité éducative. Alors, on a eu la chance en plus d'en avoir une deuxième, la cité éducative.
Le Grand Nord.
Ouais, Nord, Isard, Bordeaux-Rouge, Trois Cocus. Donc, l'année dernière, où il y a là deux médiateurs. Sur le cité grand du Grand Mirail, ce sont 5 médiateurs qui sont là pour coordonner. Il y a tout un tas de choses dans nos quartiers qui existent. Dans les différents dispositifs dont on va parler, cité éducative et cité de l'emploi, nos quartiers sont bouillonnants d'énergie. Nos quartiers sont bouillonnants d'initiatives. Là, demain, c'est comment faire en sorte de coordonner aussi tout ça. Et donc, les médiateurs ont ce rôle-là, comme pour la Cité de l'Emploi.
Alors, je pense à la Cité éducative, ça concerne des jeunes, des tout petits, hein, vraiment, oui. Jusqu'à 18 ans. Donc, tout le parcours scolaire jusqu'au lycée, jusqu'à la terminale. J'imagine que vous travaillez aussi, il n'y a pas que la métropole qui est sur le coup, avec le conseil départemental, puisque les collèges, c'est le conseil départemental.
Oui, il y a du lien. Alors, bien sûr, cette cité éducative, de toute façon, nous, c'est pas Toulouse Métropole tout seul. Nous sommes, on dit, un triumvirat avec à la fois l'éducation nationale, Toulouse Métropole, et ponctuellement, effectivement, le conseil départemental et notamment les proviseurs qui sont présents sont une clé de voûte importante pour faire le lien avec les médiateurs et les différents dispositifs. Juste pour donner un dernier exemple très concret, lors de la période Covid, c'était le démarrage de la cité éducative du Grand Mirail, il y a eu une plateforme téléphonique qui s'est mise en place très rapidement pour pouvoir répondre aux besoins et aux inquiétudes des parents. Donc ça s'est mis en place et il y a eu une distribution aussi d'un certain nombre de moyens avec des tablettes pour les enfants qui n'avaient pas forcément les moyens et qui avaient besoin quand même de continuer à travailler à la maison. Voilà du très concret.
126 cités éducatives en France, effectivement, le Grand Mirail, c'est la plus importante. Il y a 15 000 élèves, je crois, qui sont concernés.
Oui, 15 000 élèves. Et pour la cité du Nord-Isard, nous sommes à 15 000 habitants. Ça concerne, il y a du travail qui est fait autour du lycée là, urbain de Vitry.
Et il y a des fonds de l'État,
importante.
Évidemment, pour soutenir toutes vos initiatives et vos actions.
Bien sûr, pour la cité éducative du Grand Mirail, c'est 650 000 euros. Mais avec tous les cofinancements supplémentaires, donc de la ville en plus, notamment, on arrive à 800 000 euros. Donc par an, ce qui est véritablement un appui important.
Au-delà de cité éducative, il y a d'autres dispositifs, d'autres labels, cité de l'emploi, quartier productif, quartier fertile, cordée de la prévention. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur chacun d'entre eux?
Ouais, nous n'avons pas chômé pendant 2 ans. Les équipes n'ont pas chômé pendant 2 ans. La cité de l'emploi, le principe de la cité de l'emploi, c'est cité de l'emploi du Grand Mirail. Là, c'est avec ma collègue Isabelle Ferrer, parce que précédemment, la cité éducative du Grand Mirail, c'était avec Marion Lalanne de Lobadère. La transversalité, j'en parlais tout à l'heure. Donc avec Isabelle Ferrer, l'objectif de cette cité de l'emploi, c'est de de coordonner un certain nombre, pareil, d'actions nombreuses qui existent notamment pour favoriser l'emploi de, des personnes dans nos quartiers, à savoir de créer des forums. Il y a beaucoup d'initiatives. Il s'agit aussi souvent de mettre en musique. Là, concrètement, ça a été 100 000 euros par an pour faire de la coordination, faire de la communication, labelliser aussi des sites cités de l'emploi. C'est-à-dire que faciliter pour la personne qui s'interroge, ben voilà, je suis en recherche d'emploi, de formation, je sais que si je vais sur l'ADA Labal, je sais que si je vais sur les espaces numériques Rennerie, je sais que si je vais aux Imaginations Fertiles à Bellefontaine, eh bien j'aurai une écoute à un moment donné et on pourra me réorienter vers le dispositif qui est le bon et adapté à mes besoins. Donc c'est toute cette démarche. Il y a eu encore un forum, c'était le 6 décembre, sur le forum sur Rennerie, notamment sur la question des métiers du numérique, pour la découverte des métiers du numérique. Voilà du concret avec la Cité de l'Emploi. Vous parliez de quartier fertile, quartier productif. Quartier productif, pour terminer, pour être sur ce volet toujours, le volet création de richesse, il s'agit d'un engagement notamment pour pouvoir faire en sorte, souvent on interroge nos quartiers à l'aune de l'habitat et en parlant de mixité. Alors certes, la mixité ne se fait pas que par l'habitat. La mixité aussi, c'est la mixité des usages. Trop souvent, nos quartiers, dans les années 60, 70, ont été construits uniquement pour loger des personnes. Et bien là, avec quartier productif, c'est comment avoir une réflexion. On a identifié un certain nombre aussi de lieux pour enclencher le développement économique au cœur de nos quartiers, que ce soit pour un village artisanal autour de Bagatelle. Voilà comment il peut y avoir des études pour travailler à ça. Une étude aussi sur une zone économique de Babinet, qui est entre Bagatelle et Rennerie. Là, c'est se donner les moyens par des études et essayer de voir ce qu'il va falloir faire dans ces quartiers pour favoriser le développement économique classique aussi, pour donner envie d'y venir, même à des entrepreneurs, à des entreprises qui souhaitent s'implanter là, parce que c'est aussi plus simple et peut-être plus accessible, car proche du périphérique.
Oui, c'est effectivement un atout pour ces quartiers. Et donc, quartier fertile ?
Alors, quartier fertile, c'était il y a un an et demi. Ça a permis notamment de réaliser, enfin, d'accompagner le développement. Là, c'est avec mon collègue Jean-Jacques Bolzan, vous le voyez. On est obligé de travailler, c'est très bien en transversalité. Ça a permis non seulement de permettre le développement de la ferme urbaine de Bordebio et de l'écopôle Eden, le fameux écopôle du côté d'Isard, des Isards et Borderouge. La caractéristique des Isards et de toute cette partie nord, c'est que c'est un ancien quartier maraîcher. Donc il y avait déjà un engagement fort et important de mon collègue Jean-Jacques Bolzan. Et donc l'idée étant là, avec Quartier Fertile, d'apporter des moyens supplémentaires. C'était 564 000 euros, ce qui n'est pas rien, pour pouvoir rehausser, pour pouvoir s'engager vers ce quartier en développant et en donnant les moyens au Pôle Eden de se développer, et sur Rennerie aussi, de mettre en place, avec la Milpa, d'investir une friche pour en faire cette fameuse friche Dorate où désormais, chaque jeudi, il y a les enfants de l'école Dorate, il y a les associations de quartier qui viennent récolter des légumes. Ça permet à la fois de faire un travail pédagogique avec les enfants du quartier et puis en faire un lieu de rencontre. Et ça, les lieux de rencontre, je l'ai dit, la politique...
Il n'y en aura jamais assez.
Il n'y en aura jamais assez.
Enfin, cordée de prévention, alors le terme tout de suite laisse à penser prévention de quoi ? Est-ce que c'est prévention de la délinquance ? Est-ce que c'est du décrochage scolaire ? Je ne sais pas.
Alors le décrochage scolaire, c'était la cité éducative, effectivement. Chose, mais sur les cordées de la prévention, effectivement, avec mon collègue Djiali Layani, là l'objectif c'était de faciliter, d'améliorer la coordination entre les médiateurs et aussi la prévention spécialisée. Donc, non seulement c'était améliorer cette coordination, et on a des instances régulières où l'on suit ça, mais très concrètement, c'est aussi 8 éducateurs spécialisés qui ont recruté sur le Grand Mirail. Donc là, le Grand Mirail va de Rennerie-Bellefontaine jusqu'à Bagatelle-Papus. Donc, c'est 8 éducateurs spécialisés, et avec des médiateurs, 5, qui sont dans des associations, des adultes relais, la financée par l'État, et qui font le travail de rue. Voilà, quand il y a des problématiques, qu'ils puissent aller voir les jeunes, essayer de les ramener, voir ce qu'il en est pour travailler avec eux, leur projet de formation, voir ce qu'ils souhaitent, et pourquoi finalement ils sont parfois dans la rue plutôt qu'à l'école ou à la maison.
Il s'agit vraiment de prévenir, et là c'est pas le décrochage scolaire, c'est le décrochage, j'allais dire, presque de la société, tout simplement.
Tout à fait.
Alors on va terminer, il nous reste peu de temps, là. Vous avez évoqué l'élaboration en cours du prochain contrat de ville, parce que évidemment vous êtes déjà dessus, l'actuel est prolongé jusqu'en 2023, mais à compter de 2024, il y aura un nouveau contrat de ville. Quelles sont les perspectives et les objectifs de ce prochain document?
Alors les perspectives et les objectifs que j'ai souhaité avoir, comme je vous l'ai dit, c'était non seulement réduire les écarts, toujours, c'est primordial, valoriser encore plus les parcours individuels et les talents de nos quartiers. C'est important de ne pas avoir une vision uniquement négative de nos quartiers prioritaires, car c'est là aussi où il y a toute l'énergie de notre jeunesse et demain de l'avenir. Expérimenter la transition écologique, ça veut dire que passer de nos fameux trois piliers qui étaient déclinés en 16 actions, là, on va se réduire à 7 thématiques, dont des thématiques qui n'étaient pas forcément mises en avant de manière très prégnante. La première que j'ai souhaitée, c'est l'écologie urbaine et citoyenne, car c'est, ça a été dit, c'est dans nos quartiers aussi que l'on peut être le fer de lance de la transition écologique dans l'amélioration du cadre de vie. Demain, ce que l'on construit ou ce que l'on déconstruit, et non, que l'on démolit pas, on le fera dans une optique d'urbanisme bioclimatique, le meilleur qu'il soit pour les habitants de nos quartiers. Le deuxième point, c'est la thématique, c'est la prévention, médiation, tranquillité publique, car c'est un enjeu. Le troisième, l'emploi et l'entrepreneuriat. C'est une valeur à laquelle il est nécessaire de raccrocher que les habitants, la plupart des habitants, tous les habitants quasiment, souhaitent. Voilà. L'éducation, la jeunesse, bien sûr, la santé. Un vrai volet santé primordial, forcément depuis cette crise Covid aussi, la laïcité, les valeurs de la République et l'accès au droit, au sport, à la culture, là tout ce qui fait cohésion et vivre ensemble est nécessaire dans nos quartiers, qu'il y a plus parfois que dans d'autres quartiers. Voilà les 7 thématiques et notre ambition pour demain, mais s'il fallait terminer d'un mot sur la politique de la ville, il s'agit pour moi de, et avec le regard des habitants, c'est comme objectif faire en sorte de donner envie d'y venir dans nos quartiers, à la journée ou pour y vivre. C'est pour ça que demain, il y aura la Cité de la Danse ou d'autres équipements à vocation métropolitaine. Possibilité d'en partir aussi quand on est jeune entrepreneur ou qu'on a envie d'avoir un parcours résidentiel ou d'aller voir ailleurs, l'Europe. Le 6 décembre, décidément, il se passe beaucoup de choses le 6 décembre. Le 6 décembre, il y a un forum sur la mobilité européenne. Et finalement aussi, et le dernier objectif, c'est comment faire en sorte de donner les moyens aux habitants d'y rester dans de bonnes conditions et donc d'améliorer le cadre de vie. C'est ces trois objectifs qui est à manier de manière différente selon chaque quartier. Car chaque quartier, la politique de la ville à Toulouse est complètement différent. Chaque quartier a son identité.
Nous terminerons sur ces mots. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, Gaëtan Cognard. J'espère que nous aurons été le plus complet possible dans le temps qui nous est imparti concernant les actions de Toulouse Métropole dans ce très large champ de la politique de la ville. Pour ceux qui souhaitent entrer encore plus dans le détail, je signale que le contrat de ville 2015-2023 est disponible en accès libre sur le site web de Toulouse Métropole à l'adresse www.metropole.toulouse.fr à la catégorie Mon quotidien. Ce numéro de Métropole Vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.